la montée d'un technocrate. Sulzé, une entreprise suisse dont les origines remontent à 1834, s'était d'abord imposée après avoir commencé à construire des compresseurs en 1906. En 1914, l'entreprise familiale faisait partie de trois sociétés par action, dont l'une était la société holding officielle. Dans les années 1930, les bénéfices de Sulzé souffriront pendant la Grande Dépression et, comme de nombreuses entreprises à l'époque, subirent des perturbations et des actions revendicatives de la part de leurs travailleurs. La Seconde Guerre mondiale n'a peut-être pas autant affecté la Suisse que ses voisins, mais le boom économique qui allait suivre a conduit Sulzé à gagner en puissance et à dominer le marché. En 1966, juste avant l'arrivée de Klaus Schwab et Chewis, les fabricants de turbines suisses signent un accord de coopération avec les frères Sulzé à Winterthur. Sulzé et Chewis commenceraient à fusionner en 1966, lorsque Sulzé acheta 53% des actions de la société. Et Chewis deviendra officiellement Sulzé et Chewis AG en 1969 lorsque la dernière des actions sera acquise par les frères Sulzé. Une fois la fusion commencée, et Chewis commencerait à être restructuré et deux des membres du conseil d'administration existant seraient les premiers à voir leur service à et Chewis prendre fin. Le Dr H. Schindler et W. Stoffel démissionneraient du conseil d'administration désormais dirigé par Jörg Sulzé et Alfred Schaffner. Le Dr Schindler avait été membre du conseil d'administration des Chewis pendant 28 ans, et avait travaillé aux côtés de Jean Schwab pendant une grande partie de son service. Peter Schmidin prendra plus tard la présidence du conseil d'administration des Chewis, poursuivant ainsi le règne de la famille Schmidin sur les dirigeants de l'entreprise. Au cours du processus de restructuration, il a été décidé que Chewis et Sulzé se concentreraient sur des domaines distincts de l'ingénierie des machines, les usines Chewis travaillant principalement sur la construction de centrales hydrauliques, y compris les turbines, les pompes de stockage, les machines d'inversion, les dispositifs de fermeture et les pipelines, ainsi que des turbines à vapeur, des turbocompresseurs, des systèmes d'évaporation, des centrifugeuses et des machines pour l'industrie du papier et de la pâte à papier. Sulzé se concentrerait sur l'industrie de la réfrigération ainsi que sur la construction de chaudières à vapeur et de turbines à gaz. Le 1er janvier 1968, la société Sulzé et Chewis AG, récemment réorganisée, a été déployée publiquement et l'entreprise a été rationalisée, une décision jugée nécessaire en raison de plusieurs acquisitions importantes. Cela comprenait une collaboration étroite avec Brown Boveri, un groupe de sociétés suisses de génie électrique qui avait également travaillé pour les nazis, fournissant aux Allemands une partie de leur technologie U-Boat utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Brown Boveri a également été décrit comme des entrepreneurs en électricité liés à la défense, et trouverait que les conditions de la course aux armements de la guerre froide étaient avantageuses pour leur entreprise. La fusion et la réorganisation de ces géants suisses de la construction mécanique ont vu leur collaboration porter ses fruits de manière unique. Lors des Jeux Olympiques d'hiver de 1968 à Grenoble, Sulzé et Chewis ont utilisé 8 compresseurs frigorifiques pour créer des tonnes de glace artificielle. En 1969, les deux firmes s'associent pour aider à la construction d'un nouveau navire à passagers nommé Hambourg, premier navire au monde entièrement climatisé grâce à la combinaison Sulzé et Chewis. En 1967, Klaus Schwab fait officiellement irruption sur la scène de la communauté d'affaires suisse, et prend la tête de la fusion entre Sulzé et Chewis, ainsi que la formation d'alliances fructueuses avec Brown Boveri et d'autres. En décembre 1967, Klaus prend la parole lors d'un événement à Zurich et devant les plus grandes organisations suisses d'ingénierie mécanique, l'Association des employeurs des fabricants suisses de machines et de métaux et l'Association des fabricants suisses de machines. Dans son discours, il prédirait correctement l'importance de l'intégration des ordinateurs dans l'ingénierie mécanique suisse moderne, déclarant que en 1971, les produits qui ne sont même pas sur le marché aujourd'hui devraient représenter jusqu'à un quart des ventes. Cela oblige les entreprises à rechercher systématiquement les développements possibles, et à identifier les lacunes du marché. Aujourd'hui, 18 des 20 plus grandes entreprises de notre industrie des machines disposent de services de planification qui sont chargés de telles tâches. Bien sûr, tout le monde doit profiter des dernières avancées technologiques, et l'ordinateur en fait partie. Les nombreuses petites et moyennes entreprises de notre industrie des machines empruntent la voie de la coopération ou utilisent les services de prestataires de services spéciaux de traitement de données. Les ordinateurs et les données étaient évidemment considérés comme importants pour l'avenir, selon Schwab, et cela a été projeté dans la réorganisation de Sulzé et Chewis lors de leur fusion. Le site web moderne de Sulzé reflète ce changement de direction notable, affirmant qu'en 1968, les activités de technologie des matériaux sont intensifiées, par Sulzé, et forment la base des produits de technologie médicale. Le changement fondamental d'une entreprise de construction de machines à une société de technologie commence à se faire sentir. Klaus Schwab aidait à transformer Sulzer & Chewis en quelque chose de plus qu'un simple géant de la construction de machines, il les transformait en une société technologique conduisant à grande vitesse dans un avenir de haute technologie. Il convient également de noter que Sulzer & Chewis a changé une autre orientation de son activité pour les aider à former la base des produits de technologie médicale, un domaine qui n'avait pas été mentionné auparavant comme une industrie cible pour Sulzer & Chewis. Mais l'avancement technologique n'était pas la seule mise à niveau que Klaus Schwab voulait introduire chez Sulzer & Chewis. Il voulait également changer la façon dont l'entreprise pensait à son style de gestion d'entreprise. Schwab et ses proches collaborateurs poussaient une toute nouvelle philosophie d'entreprise qui permettrait à tous les collaborateurs d'accepter les impératifs de motivation et de garantir chez eux un sentiment de flexibilité et de maniabilité. C'est ici à la fin des années 1960 que nous voyons Klaus commencer à émerger comme une personnalité plus publique. À cette époque, la société Sulzer & Chewis s'est également intéressée plus que jamais à la presse. En janvier 1969, les géants suisses organisent une séance publique de consultation intitulée « Journée de la presse de l'industrie mécanique », qui porte principalement sur les questions de gestion des entreprises. Au cours de l'événement, Schwab a déclaré que les entreprises utilisant des styles autoritaires de gestion d'entreprise sont incapables d'activer pleinement le capital humain, un argument qu'il utiliserait à plusieurs reprises à la fin des années 1960. Plutonium et Pretoria. Et Chewis a été pionnier dans certaines des technologies les plus importantes de la production d'électricité. Comme le souligne le département américain de l'énergie dans son article sur le CO2 Supercritic Brayton Cycle Development, CBC, un dispositif utilisé dans les centrales hydroélectriques et nucléaires. Et Chewis a été la première entreprise connue à développer les turbomachines pour les systèmes CBC à partir de 1939. En outre, 24 systèmes ont été construits, avec Chewis concevant les cycles de conversion de puissance, et construisant les turbomachines pour tout sauf 3. En 1966, juste avant l'entrée de Schwab dans Chewis et le début de la fusion Sulzer, le compresseur d'hélium Chewis a été conçu pour la société Lafleur et a poursuivi l'évolution du Brayton Cycle Development. Cette technologie était encore importante pour l'industrie de l'armement en 1986, les drones à propulsion nucléaire étant équipés d'un réacteur nucléaire à cycle de Brayton refroidi à l'hélium. Et Chewis avait été impliqué dans la fabrication et l'installation de la technologie nucléaire au moins dès 1962, comme le montre ce brevet pour un arrangement d'échange de chaleur pour une centrale nucléaire, et ce brevet de 1966 pour une centrale nucléaire à turbine à gaz. Avec refroidissement d'urgence. Après que Schwab a quitté Sulzer & Chewis, Sulzer a également aidé à développer des turbocompresseurs spéciaux pour l'enrichissement d'uranium afin de produire des combustibles de réacteurs. Lorsque Klaus Schwab a rejoint Sulzer & Chewis en 1967 et a commencé la réorganisation de l'entreprise pour devenir une société de technologie, l'implication de Sulzer & Chewis dans les aspects les plus sombres de la course mondiale aux armements nucléaires est devenue immédiatement plus prononcée. Avant que Klaus ne s'implique, Chewis s'était souvent concentré sur l'aide à la conception et à la fabrication de pièces destinées à des utilisations civiles de la technologie nucléaire, par exemple la production d'énergie nucléaire. Pourtant, avec l'arrivée de M. Schwab enthousiaste, la société a également participé à la prolifération illégale de la technologie des armes nucléaires. En 1969, l'incorporation des Chewis dans Sulzer était entièrement achevée, et ils seraient rebaptisés Sulzer AG, supprimant le nom historique des Chewis de leur nom. Il a finalement été révélé, grâce à un examen et à un rapport réalisé par les autorités suisses et un dénommé Peter Huck, que Sulzer & Chewis avait commencé à se procurer et à fabriquer secrètement des pièces clés pour les armes nucléaires dans les années 1960. La société, alors que Schwab faisait partie du conseil d'administration, a également commencé à jouer un rôle clé dans le développement du programme d'armes nucléaires illégales de l'Afrique du Sud pendant les années les plus sombres du régime d'apartheid. Klaus Schwab a été une figure de proue dans la fondation d'une culture d'entreprise qui a aidé Pretoria à construire 6 armes nucléaires et à assembler partiellement une 7e. Dans le rapport, Peter Hug a expliqué comment Sulzer & Chewis AG, appelé après la fusion simplement Sulzer AG, avait fourni des éléments vitaux au gouvernement sud-africain et avait trouvé des preuves du rôle de l'Allemagne dans le soutien du régime raciste, révélant également que le gouvernement suisse était au courant des accords illégaux mais les a tolérés en silence tout en soutenant certains d'entre eux activement ou ne les a critiqués que sans enthousiasme. Le rapport de Hug a finalement été finalisé dans un ouvrage intitulé « La Suisse et l'Afrique du Sud 1948 à 1994 », rapport final du NFP 42+, commandé par le Conseil fédéral suisse qui a été compilé et rédigé par Jörg Kray et publié en 2007. En 1967, l'Afrique du Sud avait construit un réacteur dans le cadre d'un plan de production de plutonium, le Safari 2 situé à Polindaba. Safari 2 faisait partie d'un projet de développement d'un réacteur modéré à l'eau lourde qui serait alimenté à l'uranium naturel et refroidi au sodium. Ce lien avec le développement de l'eau lourde pour la création d'uranium, la même technologie qui avait été utilisée par les nazis également avec l'aide d'Echewis, peut expliquer pourquoi les Sud-Africains ont initialement impliqué Echewis. Mais en 1969, l'Afrique du Sud a abandonné le projet de réacteur à eau lourde de Pelindaba parce qu'il drainait les ressources de son programme d'enrichissement d'uranium qui avait commencé en 1967. Une arme nucléaire sud-africaine en stock. En 1970, Echewis était définitivement profondément impliqué dans la technologie nucléaire, comme le montre un disque disponible dans le Landes Archives Baden-Württemberg. Le dossier présente les détails d'un processus de passation de marché public et contient des informations sur les négociations d'attribution avec des entreprises spécifiques impliquées dans l'acquisition de technologies et de matières nucléaires. Les entreprises citées comprennent Nukem, UD, Kranz, Prozsag, Echewis, Siemens, Rheinthal, Leybold, Lurgie et le tristement célèbre Transnuclear. Les Suisses et les Sud-Africains ont entretenu des relations étroites tout au long de cette période de l'histoire, alors qu'il n'était guère facile pour le brutal régime sud-africain de trouver des alliés proches. Le 4 novembre 1977, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté la résolution 418 qui imposait un embargo obligatoire sur les armes contre l'Afrique du Sud, un embargo qui ne serait entièrement levé qu'en 1994. Jörg Kray a souligné ce qui suit dans son évaluation détaillée du rapport Hug. Le fait que les autorités aient adopté une attitude de laisser-faire même après mai 1978 est mis en évidence dans un échange de lettres entre le mouvement anti-apartheid et la DFMA en octobre/décembre 1978. Comme l'explique l'étude de Hug, le mouvement anti-apartheid de Suisse a souligné des rapports allemands selon lesquels Sulz et Echewis et une société appelée BBC avaient fourni des pièces pour l'usine d'enrichissement d'uranium sud-africaine, et des crédits répétés à Eskom, qui a également inclus des contributions considérables de banques suisses. Ces affirmations ont conduit à se demander si le Conseil fédéral, à la lumière du soutien fondamental de l'embargo de l'ONU, ne devrait pas inciter la Banque nationale à cesser d'autoriser des crédits pour l'ESCON à l'avenir. Les banques suisses contribueraient à financer la course sud-africaine aux armes nucléaires et, en 1986, Sulz et Echewis produisaient avec succès des compresseurs spéciaux pour l'enrichissement de l'uranium. La fondation du Forum économique mondial. En 1970, le jeune parvenu, Klaus Schwab, écrivit à la Commission européenne et demanda de l'aide pour la mise en place d'un groupe de réflexion non commercial pour les chefs d'entreprise européens. La Commission européenne sponsoriserait également l'événement, envoyant le politicien français Raymond Barre jouer le rôle de mentor intellectuel du forum. Raymond Barre, alors commissaire européen chargé des affaires économiques et financières, deviendra plus tard Premier ministre français et sera accusé d'avoir fait des commentaires antisémites pendant son mandat. Ainsi, en 1970, Schwab a quitté Echewis pour organiser une conférence de gestion d'entreprise de 2 semaines. En 1971, la première réunion du Forum économique mondial, alors dénommé Symposium européen sur la gestion, s'est tenue à Davos, en Suisse. Environ 450 participants de 31 pays prendraient part au premier Symposium européen sur la gestion de Schwab, principalement composé de dirigeants de diverses entreprises européennes, de politiciens et d'universitaires américains. Le projet a été enregistré comme organisé par Klaus Schwab et sa secrétaire Hilde Stoll qui, plus tard la même année, deviendra l'épouse de Klaus Schwab. Le symposium européen de Klaus n'était pas une idée originale. Comme l'écrivain Ganga Jayaratnam l'a déclaré de manière assez cohérente en 2018. L'esprit de Davos de Klaus Schwab était aussi l'esprit de Harvard. L'école de commerce n'avait pas seulement défendu l'idée d'un symposium. L'éminent économiste de Harvard, John Kenneth Galbraith, a défendu la société aisée ainsi que les besoins de planification du capitalisme et le rapprochement de l'Est et de l'Ouest. Il est également vrai que, comme l'a également souligné Ratnam, ce n'est pas la première fois que Davos accueille de tels événements. Entre 1928 et 1931, les conférences universitaires de Davos ont eu lieu à l'hôtel Belvedere, événement cofondé par Albert Einstein et seulement stoppé par la Grande Dépression et la menace d'une guerre imminente.